Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous face. Et en cette rentrée, on s'intéresse à la gestion des émotions au travail. Qu'on le veuille ou non, travailler c'est concilier raison et émotion. La recherche scientifique le confirme désormais, les émotions sont essentielles au processus cognitif, mais toutes les émotions peuvent-elles s'exprimer au boulot? La colère, la frustration, l'ennui, la honte, la joie, la gratitude, quelles sont celles qui permettent de faire corps, celles qui soudent un collectif et celles qui sont rejetées? Quelles sont les émotions que l'on doit mettre en scène et celles que l'on doit taire? Doit-on partager avec ses collègues ou confrères les émotions liées à sa vie personnelle, intime? Quid du sentiment amoureux qui peut naître dans le milieu professionnel? Et puis nous verrons également si une émotion comme la bienveillance est vraiment compatible avec le monde du travail. Les hommes et les femmes partagent-ils leurs émotions de la même manière? Et puis quels sont les risques à étouffer certaines émotions au travail? Nos experts tenteront de répondre à toutes ces questions. Et vous, racontez-nous la place des émotions dans votre travail. Comment réagissez-vous quand la colère monte, quand vous vous sentez frustré, quand vous ressentez de l'ennui, de la honte ou quand vous éprouvez du plaisir et de la joie? Si vous êtes à la retraite ou en pré-retraite, n'hésitez pas à partager votre expérience, forcément utile à ceux qui travaillent et à ceux qui recherchent un emploi. On abordera également la question des émotions et du télétravail en cette période de pandémie. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Laissez-nous également des messages et des notes vocales via le site et l'appli France Inter. Elle arbore une mine que j'envierai presque. Elle est de retour avec ses questions pertinentes. Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle. Quel est le programme?
Bonjour Ali. Ah, moi, le télétravail m'inspire énormément. Beaucoup d'émotions durant cette période.
Vous avez beaucoup pratiqué. Hein.
Absolument. Et je continue.
Il est tout beau avec sa nouvelle coupe de cheveux et sa barbe bien taillée. L'ours grognon à la plume alerte. Éric Libiot, bienvenue Éric.
Bonjour Ali, bienvenue à vous, à tout le monde. Aujourd'hui, on parlera Albert Camus et Lewis Carroll.
Ah, beau programme. Bienvenue dans Grand Main vous face, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous face.
À demain Noémie.
À demain Mathias. Oh, il a oublié son téléphone. Mathias!
Noémie! Je comprends pas.
C'est Mathias, il part avec tous ses talents à Star Media. Il va me proposer de venir avec lui. Il va banale. Je suis qu'une merde banale.
Mais non.
Extrait de la série 10%, je vous rassure, ça ne se passe pas comme ça dans le bureau de Grand Bien vous fasse. Pour évoquer la place des émotions au travail, trois experts. Bonjour Aurélie Janté.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste du travail, maître de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle. Et vous avez publié en poche chez Biblis, au CNRS édition, Les émotions au travail. Bonjour Vincent de Gaulé-Jacques.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur émérite à l'université Paris Diderot. Vous avez longtemps dirigé le laboratoire de changement social. Et vous avez notamment publié en poche dans la collection Point Travail, les raisons de la colère ou encore les sources de la honte. Bonjour docteur Patrick Légeron.
Bonjour.
Psychiatre, fondateur du cabinet Stimulus, spécialisé dans la santé psychologique au travail. Vous avez co-dirigé un rapport sur le burn-out de l'Académie de médecine. Et vous avez notamment publié chez Odile Jacob le stress au travail et avec notre ami Christophe André, la peur des autres. Christophe André qui sera de retour dans cette émission mardi prochain. Alors, Vincent de Gaulé-Jacques, avant d'aborder la place des émotions au travail, il faut rappeler une évidence. Le travail occupe une place essentielle, centrale, dans l'existence humaine.
Oui, avec l'amour, la famille, l'argent.
Mais les sociologues disent d'ailleurs que c'est un phénomène social total qui concerne tous les registres de l'existence.
Oui, d'ailleurs, Marianne Dujarrier vient de sortir un livre où elle montre bien le travail dans la Genèse. Hein, ça commence avec la souffrance au travail, avec l'accouchement. Le travail, quand est-ce qu'on travaille et quand est-ce qu'on travaille pas? Et il y a une polysémie du terme qui est absolument énorme. Alors, ce qui est intéressant, c'est un changement. Avant le travail, on travaillait à la sueur de son front. Et donc là... c'était essentiellement la canalisation physique. C'était le corps hein, qui fallait transformer en force de travail. Et d'ailleurs, quand on parlait de souffrance au travail, on parlait de maladie professionnelle, essentiellement dans une dimension corporelle. Aujourd'hui, c'est la psyché qui est mobilisée. Et donc, les émotions deviennent un élément central. Le travail a toujours été chargé d'affects. Mais aujourd'hui, ces affects-là, ils sont l'objet de l'attention de coach, on y reviendra sûrement, et puis du fameux phénomène hein, qu'on voit émerger à partir des années 80, 90, et aujourd'hui, de souffrance au travail, c'est-à-dire c'est la subjectivité qui est mobilisée. Et c'est intéressant ce glissement-là. Avant, il fallait le rendre le corps utile, docile et productif, disait Michel Foucault. Aujourd'hui, c'est la psyché qu'il faut canaliser en force de travail, d'où une attention. Avant, on séparait raison et émotion. Et le travail, c'était le lieu de la retenue. Fallait serrer les dents, fallait pas montrer sa faiblesse, sa souffrance. C'était la culture de la virilité hein, et de la force et du courage. Et maintenant, hein, les émotions sont l'objet d'une attention parce que il faut transformer la subjectivité hein, en force de travail. Et donc, il faut rendre positives les émotions et écarter les émotions négatives.
Alors, comme vous l'écrivez, Vincent de Gaulle-Jacques, le travail est à la fois une source de plaisir et d'angoisse, de contrainte et de créativité, de dépendance et d'autonomie. Le travail permet de remplir son frigo, de payer ses crédits, d'assurer l'éducation de ses enfants. Et c'est aussi un instrument de réalisation de soi, un moyen fondamental de se socialiser. Bref, c'est une nécessité vitale, existentielle.
Voilà, donc il faut devenir entrepreneur de soi. Je dirais dans une formule un peu provocante, le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier. Et donc, on est dans l'idéologie de la performance, du toujours plus, du dépassement de soi-même.
Docteur Patrick Légeron, depuis votre poste d'observation, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Vincent de Gaulle-Jacques ?
Oui, je voudrais juste rebondir sur quand même beaucoup d'études internationales et qui comparent la France. On parlait de la place du travail pour l'individu qui est centrale, mais nous sommes le pays, dans les enquêtes européennes, pour lesquelles l'investissement au travail est le plus grand. C'est-à-dire, notre ami Dominique Méda, sociologue, a publié pas mal d'études là-dessus. Par exemple, à la question « Quelle place accordez-vous au travail dans votre vie ?» Eh bien, ce sont les Français qui choisissent le plus souvent une place extrêmement importante. Les Allemands, j'aime bien citer les Allemands, parce que pour nous, c'est synonyme de l'efficacité. Et cet surinvestissement émotionnel au travail pose des problèmes. On verra tout à l'heure sans doute que les émotions sont la meilleure et la pire des choses et que par exemple le burn-out est défini comme un épuisement des émotions et que le stress est caractérisé par une dynamique émotionnelle. Donc je pense que ce surinvestissement des émotions des Français explique aussi une certaine souffrance au travail et ça c'est vrai. Et ce qu'a dit Vincent de Gaulle-Jacques m'interpelle évidemment beaucoup parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes amenés à prendre soin de nous, mais prendre soin de nous dans une démarche à la fois personnelle et je pense qu'il faut savoir aujourd'hui se protéger à travers ces émotions qui sont comme je disais la meilleure et la pire des choses, donc il faut apprendre à gérer ses propres émotions. Mais puisqu'on parle du monde du travail, le monde du travail a une responsabilité énorme. Tout d'abord, à ne pas accorder aux émotions la place qu'elles méritent et à être dans une attitude de déni. J'ai juste sous les yeux une enquête européenne récente et ça m'a fait beaucoup de comparaisons. C'est votre travail requiert-il que vous cachiez vos émotions ? C'est une question simple. Eh bien, nous sommes le pays avec la Hongrie, la Turquie, la Grèce qui répond le plus « oui, il faut que je cache mes émotions ». 33% des salariés français disent « je dois cacher mes émotions ». Au Danemark, ils sont que 12%. En Allemagne, à peine 20%. Donc on a un problème des émotions au travail assez spécifique aussi à notre pays.
Aurélie Janté, dans votre livre « Les émotions au travail », vous n'opposez pas raison et sentiment. Vous réhabilitez les émotions au travail ?
Oui, bah effectivement, dans la lignée de mes collègues, j'observe bien sûr que les entreprises se sont construites dans un déni des émotions et dans une scission entre raison et émotion. Être professionnel, c'est être dans la raison, en fait, hein, rationnel. Mais effectivement, c'est tout à fait problématique et faux. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de travaux, de neurologues, de psychologues qui montrent qu'effectivement, ça fait partie de l'intelligence,
la sensibilité. Les travaux d'Antonio Damasio, notamment, voilà, qui est professeur de psychologie et de neurologie.
Voilà, de Diff-Klo aussi, par exemple, qui montrent qu'effectivement, sans émotion, on est bête, en fait. Hein, on ne peut pas prendre de bonnes décisions pertinentes qui prend en compte toutes les dimensions d'une situation. Donc effectivement, on arrive à des situations assez paradoxales et qui font souffrir, où les émotions sont rejetées en dehors de la sphère du travail, sont rejetées justement dans la famille, dans d'autres espaces que le travail, et où on n'est pas chez soi au travail, on doit faire ce que Scott Child, cette sociologue américaine, appelle un travail émotionnel, en réprimant certaines émotions et en simulant d'autres émotions.
Et elle avait fait un beau travail sur les hôtesses de l'air.
Tout à fait. On est toujours dans cette organisation-là, dans cette normalisation-là des émotions. Hein, parce que les émotions sont effectivement normées socialement, ça on le sait. Et que, effectivement, Vincent Goljak parlait de cette instrumentalisation des émotions par le management contemporain. Et c'est vrai que c'est une des causes de souffrance aussi dans notre système.
Sur l'expression des émotions au travail, tout dépend du milieu professionnel. Dans les professions artistiques, créatives, les émotions sont davantage valorisées que dans le secteur de la banque ou de l'assurance.
Ah ben c'est sûr que d'un milieu professionnel à un autre, ce sont pas les mêmes émotions. Et on n'a pas la même marge de manœuvre. Mais voilà, comme pour d'autres choses, la question de la créativité, la place du corps, parce que qui dit émotion dit aussi ressenti corporel. Hein, en fait, j'aime bien cette définition relationnelle des émotions, en fait. Hein. L'émotion, c'est pas une intériorité fermée sur elle-même. Donc, il faut prendre garde aussi de pas essentialiser cette question-là. En fait, c'est une construction sociale et c'est un rapport aux autres. C'est un rapport au monde et à soi qui s'inscrit dans le corps. Et effectivement, oui, bien sûr, hein, y a des cultures émotionnelles qui sont différentes d'un milieu professionnel à un autre. Il y a des socialisations aux émotions qui sont très diverses et plurielles et très riches.
Vincent de Goljak.
Oui, les émotions, c'est des baromètres de la subjectivité. Donc, si on les retient, si on les réprime, évidemment, le sujet se trouve en difficulté. Et d'ailleurs, on se trouve empêché de bien travailler d'une certaine façon. Mais je voudrais juste revenir sur un terme. Hein, mal nommer les choses ajoute au malheur des mondes, disait Albert Camus. Gérer ses émotions. Gérer ses émotions, on est bien là dans l'idéologie managériale. C'est-à-dire qu'il faut essayer, en particulier, de rendre les émotions utiles. Donc, la motivation, l'émulation, la performance. Il faut travailler ce travail pour que les personnes au travail puissent se mobiliser sur des émotions qui ne viennent pas empêcher la productivité, la performance, etc. Et donc, gérer ses émotions, les émotions, elles sont pas de l'ordre de la gestion. Elles sont de l'ordre de la subjectivité, donc du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est de ce dont j'ai besoin pour être bien dans ma peau et non pas pour répondre à des exigences normatives extérieures de performance, de rentabilité et d'utilité.
Patrick Légeron, depuis votre poste d'observation, vous avez répertorié, alors c'est très schématique, trois grands types d'entreprises face aux émotions.
Ça rejoint ce que ma collègue disait.
Aurélie Janté.
Une petite typographie. Il y a des entreprises que j'appellerais froides, papier glacé, un peu comme il y a des animaux sans froid, vous savez, ou dans lequel rien n'est exprimé. Et en effet, c'est le secteur bancaire, de l'assurance. Et puis il y a un secteur où, au contraire, les émotions se lâchent, les émotions positives. Alors c'est la communication, le milieu artistique, ma chérie comme t'es belle, qu'est-ce que je suis heureux. Et ça c'est ce que tentent de mettre en place beaucoup d'entreprises, vous savez, où on libère les émotions positives, les team building, tout ça. Mais les émotions négatives sont absolument pas autorisées, exprimer son mécontentement, sa colère, son inquiétude, etc. Et puis il y a les troisièmes types d'entreprises, malheureusement assez rares, que j'appellerais des entreprises avec une intelligence émotionnelle, parce que l'intelligence émotionnelle est souvent définie pour les individus, mais on peut aussi les définir pour les entreprises dans lesquelles toutes les émotions sont autorisées, acceptées, et même si Vincent de Gaulle-Jacques n'aime pas beaucoup le mot, sont gérées. Les émotions se gèrent, se canalisent, etc. Et là encore, nous avons un vrai problème, parce que les réceptionnaires des émotions au travail, c'est souvent les managers, et la faiblesse du management dans ce domaine est exemplaire.
Comme tu es belle, Marie-Laure Zonshine.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Patrick Légeron. Les émotions, la colère, par exemple, tout dépend aussi qui l'exprime. Ouais. Est-ce que c'est le patron qui va, pardonnez-moi l'expression, piquer une gueulante, qui est peut-être motivé, qui va peut-être réveiller les troupes? Est-ce que c'est une assistante qui va péter les plombs parce que surcharge de travail, parce que des réflexions dans les couloirs, que sais-je? Cette émotion, tout dépend effectivement qui l'exprime et comment ça rejaillit, comment elle est perçue aussi par les autres dans l'entreprise.
Aurélie Janté.
Oui, absolument. Là, vous pointez quelque chose de très important, parce qu'il y a effectivement des inégalités émotionnelles très fortes. Et je dirais que les émotions font partie des rapports de domination. C'est-à-dire qu'elles donnent chair aux rapports de domination. Sans émotion, il n'y a pas de domination. Et donc là, effectivement, bah, vous citez la différence à la fois de classe, de sexe. Et effectivement, la colère, c'est typiquement une émotion qui peut être autorisée dans certaines situations. Et effectivement, si vous êtes un homme et en haut de l'échelle sociale, ça peut passer pour effectivement quelqu'un de déterminé, qui sait ce qu'il veut, hein, qui se donne les moyens d'y arriver, alors qu'effectivement la femme, évidemment, ça va passer pour de l'hystérie, et l'ouvrier pour de la vulgarité, il sait pas se tenir, etc.
Patrick Légeron.
Dans les émotions, il faut distinguer deux choses, l'expérience subjective interne qu'on ressent, l'émotion qu'on ressent et ce qu'on exprime. Évidemment, quand vous dites piquer une colère, c'est une façon d'exprimer son émotion qui n'est pas forcément la plus adaptée dans beaucoup de situations. Alors évidemment, il y a des aspects hiérarchiques, de relations, de position sociale, d'autorité, etc. Mais exprimer, par exemple, sa colère ou son mécontentement peut être fait de manière extrêmement affirmée, sans attaquer l'autre, en disant « je suis extrêmement déçu de ne pas avoir eu le poste que j'escomptais, je me suis donné, c'est quelque chose qui me déçoit profondément, qui me met franchement en colère », et de parler de son propre émotion sans forcément accuser l'autre. Et c'est vrai que dans tous les aspects de gestion des émotions, on apprend des techniques d'expression de ces émotions. Parce que autant il faut accepter toutes les émotions des gens, les gens ont le droit d'être en colère, d'être découragés, etc., mais ils n'ont pas le droit d'exprimer, par exemple, on a le droit d'être en colère, on n'a pas le droit de taper sur quelqu'un. Donc on voit la différence entre ressentir une émotion et l'expression. Et toute la technique de gestion du stress permet aux individus d'apprendre, comme ça se fait déjà à l'école dans les pays d'Europe du Nord, on apprend aux petits-enfants à exprimer des émotions.
Vincent de Gaulle-Jacques.
Ce n'est pas que je n'aime pas le terme de gestion, mais l'apprentissage à gérer ses émotions dans le travail, c'est des conduites d'adaptation. Et c'est vrai qu'il y a deux psychologies par rapport à ça. Il y a la psychologie comportementaliste, qui est on va s'adapter, parce que comme on ne peut pas changer les choses, au mieux s'adapter, essayer d'être positif plutôt qu'être négatif. Mais ces conduites adaptatives, elles nient une dimension du sujet qui est de quoi j'ai besoin pour ne pas me mettre en colère et pour être bien dans ma peau. Et là, il y a deux éléments. C'est la question de l'individualisation aujourd'hui dans le rapport au travail. C'est pas la même chose, hein, de se mettre en colère individuellement. Ça, on n'a pas le droit, effectivement. Et se mettre en colère collectivement, qui, au bon temps de la lutte des classes, était un moyen de se mobiliser collectivement pour changer ses conditions de travail. Alors que, au temps aujourd'hui de la lutte des places, chacun est renvoyé à lui-même pour gérer sa colère, et comme il ne peut pas l'exprimer, ben ça produit des troubles psychosomatiques, comme l'ulcère à l'estomac, la dépression, on retourne la colère contre soi.
Aurélie Janté.
Oui, j'aime pas non plus l'idée de gérer ses émotions, je le dis, parce que alors, c'est même le terme d'intelligence émotionnelle qui a été vulgarisé par Goldman.
Goldman,
voilà,
un journaliste scientifique américain.
Voilà, qui est devenu un best-seller dans le management, qui est très utilisé, est extrêmement problématique parce que ça reste dans l'idéologie de la maîtrise. C'est-à-dire qu'on pourrait être maître de ses émotions et il faudrait maîtriser ses émotions. Alors que par définition, les émotions, elles nous surprennent, elles sont imprévisibles, et que donc c'est une illusion de penser qu'il faudrait pouvoir maîtriser par des techniques, par voilà, de tout un tas de formations, c'est-à-dire pouvoir se mettre en colère tac au bon moment, de la bonne façon, etc. Et donc il me semble que c'est assez discutable. D'ailleurs, les notions de quotient émotionnel aussi, comme le QI, qui se prêterait à des mesures objectives, etc., est évidemment extrêmement discutable. Et je pense qu'il faudrait plutôt penser la question à partir des situations. C'est-à-dire dans quelles situations on peut être effectivement bien, soit pouvoir exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent.
Et pour aller dans votre sens, Catherine nous écrit « Je suis toujours choquée d'entendre dire gérer ses émotions. Les émotions nous renseignent sur notre environnement et nous permettent d'identifier les éventuels dangers auxquels nous sommes confrontés. La priorité actuelle me semble d'aider les individus à se reconnecter à leurs émotions. » Tiens, je vous propose d'écouter Françoise qui habite Fréquienne en Normandie et qui nous a laissé une note vocale sur l'appli France Inter.
Bonjour à tous. Un tout grand merci pour toutes vos émissions que j'écoute et réécoute et partage. Je profite du thème de l'émission pour parler de mon métier, aide à domicile. Il est un formidable moyen d'expression et d'échange, de gratitude qui donne du sens à ma vie. Son problème, la difficulté de l'exercer dans de bonnes conditions, et ce n'est pas les 15% d'augmentation que nos politiques nous promettent qui en feront un métier attractif. Car de nombreuses collègues ont du mal à passer outre toutes les émotions négatives qu'ils génèrent. Les sentiments de non-reconnaissance, les injonctions contradictoires, la douleur des personnes qu'elles accompagnent, la gestion du stress, la fatigue physique et psychologique. Merci et bonne journée à tous.
Très joli témoignage de Françoise Vincent de Gaulle-Jacq.
Elle met l'accent sur quelque chose qui est un phénomène social majeur aujourd'hui dans le monde du travail, qui c'est que les gens ont de plus en plus le sentiment d'être soumis à des dilemmes impossibles. Par exemple,
les injonctions paradoxales.
Voilà. Et c'est les organisations qui deviennent paradoxantes. Et ils savent plus quoi faire et ça leur fait perdre le sens. Et on ne leur donne pas au sein du monde du travail les moyens de comprendre pourquoi ils sont dans des injonctions contradictoires. En pensant à votre émission, j'ai retrouvé une petite anecdote, un dessin de Dubuisson dans Les Échos il y a longtemps. C'est le DRH qui convoque un de ses employés et qui lui dit... Comme vous le savez, nous plaçons le bonheur de nos employés en tête des valeurs de notre entreprise. Oui. Donc, êtes-vous heureux ? L'interlocuteur répond « bof ». Je le note, n'atteint pas ses objectifs. Alors, je pourrais vous donner des exemples comme ça, comme pourquoi les organisations deviennent paradoxantes, et le témoignage l'illustre bien.
Et vous racontez-nous la place des émotions dans votre travail, colère, ennui, frustration, honte, joie, plaisir. Si vous êtes à la retraite ou en pré-retraite, n'hésitez pas à partager votre expérience, forcément utile à ceux qui reprennent le boulot en ce moment. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Laissez-nous également des messages et des notes vocales via le site et l'appli France Inter. Dans quelques instants, vous verrez comment gérer, mot qu'affectionne Vincent de Gaulle-Jacq et Aurélie Janté, la colère ou l'ennui au travail. En attendant, on écoute Véronique Sanson, chanson pour Ma drôle de vie. Notre réalisatrice Claire Destacan s'apprête à chanter, je le sais, en régie, en chœur avec nos attachés de production Camille Pouge-Laguier et Julia Macarez.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tout.
Véronique Sanson, chanson pour ma drôle de vie.
Oh putain.
Grand bien vous fasse.
Viens. Travaille, toi. Hein, t'es pas comme Napoléon, toi, t'es pas capable de parler, de faire le ménage en même temps.
Ali Rébéi.
Faisais le ménage, Napoléon.
Sur France Inter.
10h32, quelle place pour les émotions au travail? C'est notre thème ce matin en compagnie du psychiatre Patrick Légeron, des sociologues Aurélie Janté et Vincent de Gaulle-Jac. Pour nous contacter, le standard 01 45 24 7000. Les messages et les notes vocales, c'est sur l'appli et le site France Inter.
Franchement, je me demande pourquoi je vous garde, Wesley. Attitude médiocre, performance médiocre, capacité managériale médiocre. Quant à l'esprit d'équipe, alors là, laissez-moi rigoler.
Ferme ta gueule, salope! Sous prétexte qu'elle a une toute petite parcelle de pouvoir, elle croit qu'elle a le droit de pousser tout le monde à bout!
Je sais, Janice. Vous avez dû avoir une scolarité difficile. Mais ça n'autorise pas à traiter ses subordonnés comme de la merde. Vu votre manière de faire, je pense être l'interprète de tous ceux qui travaillent ici en vous disant « Allez vous chier dessus en enfer ».
Extrait du film Wanted, sorti en 2018. Alors, certaines émotions au travail peuvent faire peur, on vient de l'entendre dans cet extrait. Imaginons, Aurélie Janté, je rappelle que vous publiez les émotions au travail, que l'on puisse exprimer toutes ces émotions au travail, où chacun pourrait crier, pleurer, taper du pied, voire brutaliser ses collègues ou ses supérieurs. D'ailleurs, certains considèrent l'expression de certaines émotions comme un risque majeur de désordre au travail.
Oui, effectivement, il y a cette espèce d'idée comme ça, qu'exprimer ses émotions, ça donnerait lieu au chaos, en fait, vraiment à quelque chose d'épouvantable, et qui renforce l'idée qu'il faudrait les maîtriser, les contrôler, les canaliser, voire les dénier. Mais cette image, ce fantasme, évidemment, n'a pas lieu d'être dans la mesure où on est tous en fait socialisés, éduqués, et on nous apprend depuis qu'on est tout petit à faire taire, à contenir certaines émotions, à en exprimer d'autres. Et on sait que dans certaines situations, on peut le faire, dans d'autres, on ne peut pas. Donc là-dessus. On arrive déjà dans l'entreprise avec ce que certains appellent des compétences émotionnelles. Hein, et donc, on continue cette socialisation selon les métiers qu'on traverse et qu'on apprend. On apprend aussi les émotions qui vont avec. Effectivement, jusqu'où est-ce qu'il faut les canaliser, c'est bien la question.
Il est simpliste de distinguer les émotions dites positives et les émotions dites négatives. On parle plutôt aujourd'hui d'émotions agréables et d'émotions désagréables.
Oui, ben c'est très normatif de dire positif et négatif. La colère et la peur, par exemple, sont des émotions qui sont plutôt désagréables, qu'on va donc on peut avoir tendance à les qualifier négatives, alors qu'elles peuvent être extrêmement utiles pour, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, nous alerter d'un danger ou pour refuser certaines
mais
mesures.
Descartes,
docteur Patrick Légeron.
Descartes disait très bien dans le traité des passions, c'est comme ça qu'on appelait les émotions à l'époque, dans le traité des passions, dans sa conclusion, il disait, maintenant que nous les connaissons toutes, nous voyons qu'elles sont bonnes par nature et que nous n'avions en crainte que leurs excès ou leurs mauvais usages. Donc évidemment, toutes les émotions sont bonnes, elles font partie, j'allais dire, de notre capital psychologique. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la recherche, c'est que toute la recherche en psychologie moderne s'axe sur les émotions dans leur dimension aussi bien neurosciences que cognitives, et que l'inconscient freudien est complètement mis de côté. Maintenant, c'est les recherches sur les émotions qui sont le moteur même du fonctionnement, j'allais dire, de l'individu, et que ces émotions, on sait bien, comme vous venez de le souligner, qu'elles sont extrêmement utiles. La colère est utile, la peur est utile, le découragement est utile, tout ça est utile. Et comme le disait Descartes, attention au mauvais usage et à leur excès. Et le mauvais usage, c'est justement ce que l'on en fait de ces émotions. Et je pense que lorsqu'on est en colère, même si on est socialisé, il y a des moyens sociaux d'exprimer, par exemple, de la colère, d'exprimer du découragement, de l'émotion. Mais il faut qu'en face de soi, il y ait des gens qui l'acceptent. Et là, on est dans la problématique, je suis d'accord, de l'entreprise. Les managers doivent être habitué, doit être formé, être capable d'écouter des émotions négatives. Et moi, je me souviens trop bien d'un jour d'un dirigeant que je rencontrais. Lorsque je lui expliquais un petit peu tout ça, il m'avait dit « Mais alors, il faut s'occuper des états d'âme des gens. Des états d'âme. » Je dis « Ben oui, les gens ont des états d'âme. Peut-être que vos ordinateurs, vos appareils électroniques n'ont pas d'état d'âme, mais les gens ont des états d'âme. » D'ailleurs, dans la recherche sur l'intelligence artificielle, comme vous le savez, le blocage, c'est que les ordinateurs n'ont pas d'émotion. Et toute la recherche pour améliorer l'intelligence artificielle fait appel à la recherche des émotions. On essaye, comme dans le film 2001 Odyssée de l'espace, faire que l'ordinateur de bord connaissent la frustration, la colère et met en péril la mission du film de Kubrick. Mais donc on voit bien l'importance des émotions là-dedans.
Vincent de Gaulé-Jacques.
Je suis toujours gêné quand on dit qu'il faut rendre les choses utiles. Utile pour qui, utile pour quoi, et qui décide de l'utilité des choses. Et donc c'est pour ça que le paradigme de l'utilitarisme, pour moi, n'est pas un bon baromètre de la subjectivité et de la question de l'importance de pouvoir exprimer ses émotions. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Par rapport aux managers, je vous conseille le livre de Valérie Brunel qui s'appelle « Les managers de l'âme », où elle montre bien comment les techniques de développement personnel qui ont été utilisées dans le coaching, dans les entreprises, etc., en fait, canalisent les émotions pour les rendre utiles, performantes et rentables. Donc, la question, on peut pas aborder ça, effectivement, de façon binaire, et c'est ça l'intérêt de Freud, c'est par rapport à l'analyse qu'il fait de la contradiction qui est au cœur du fonctionnement psychique, et qui fait que dans le rapport à la colère, la honte ou l'envie, il y a des contradictions.
Réflexion de Martine d'Orléans, maintenant retraitée, donc sortie d'un milieu de travail toxique. Je conseillerais de ne pas parler de sa vie privée au travail, car cela est un moyen de jugement pour les collègues malfaisants, surtout quand la hiérarchie ne fait pas son job dans le même sens. Question de Patrick qui nous demande s'il faut partager ses émotions avec ses collègues et doit-on les exprimer avec ses supérieurs. Aurélie Janté. Vaste question.
C'est très difficile de répondre de façon générale, parce que, évidemment, les contextes professionnels qui sont les nôtres...
Parler de sa vie privée, par exemple, est-ce que de ses émotions liées à sa vie privée, est-ce que...
Là aussi, on voit qu'il y a des contextes professionnels, il y a des milieux qui l'autorisent, qui le favorisent, et puis il y en a d'autres non. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper, les émotions qui on a à partager, en fait, sont les émotions qui sont liées à la tâche, à l'activité qu'on a à faire. C'est ça qui est intéressant à mutualiser, à débattre, à pouvoir exprimer entre collègues. Ensuite, après, les liens peuvent être des liens d'amitié, des liens amoureux. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est aussi leur travail qui a une place.
Vincent de Gaulé-Jacques.
Parler de soi au travail, c'est ambigu. Parce que ça voudrait dire que vous allez être évalué en fonction de votre personnalité, de vos réactions émotionnelles ou psychologiques, et non pas par rapport à la qualité du travail que vous faites. Et c'est ça qui est pervers. Et dans l'évaluation, par exemple, par objectif, on vous dit « Ah ben, vous n'avez pas rempli vos objectifs, donc vous êtes mauvais. » Et donc, on intériorise le fait, et c'est ça la honte, que si je n'arrive pas à remplir mes objectifs, c'est parce que je ne suis pas bon. Alors que peut-être, c'est parce que je n'ai pas eu les moyens de les remplir.
Bonjour Laurent, bienvenue.
Bonjour.
D'où appelez-vous,
Bonjour
Laurent ?
Bonjour à tous.
Bonjour, d'où appelez-vous ?
Là, je suis dans le Lot en ce moment.
Ah, vous avez bien de la chance, hein. Très belle, très beau département. Quelle est votre réflexion, Laurent ?
Je pense qu'il faut tenir compte de toutes les émotions. Moi, j'étais chef d'équipe pendant une vingtaine d'années dans la grande distribution, puis après dans l'industrie. Et pour moi, le résultat de non-résultat est la somme des résultats de toute mon équipe. Tous les matins ou l'après-midi, quand on est en 8, je prenais le pouls de chacun quand il arrivait, de savoir s'il allait bien, s'il était motivé, s'il avait les baisses de forme, si tout ce qu'il peut avoir dans la vie, qui va jouer sur son résultat. Si j'en tiens pas compte, il y a quelque chose qui se passe mal au niveau de l'équipe, et lui va être déstabilisé, les autres vont être déstabilisés de le voir peiner. Donc du coup, c'est anticiper ça et de dire aujourd'hui je vais te mettre en binôme avec un tel, et puis au moins la journée se passera tranquille, lui il va pouvoir évacuer un petit peu ses problèmes parce qu'il va être aidé sur son poste de travail. Celui en plus qui aide, c'est que si un jour ça lui arrive, il pourra compter sur l'équipe. Et donc tout ça, c'est pour moi, c'est une équipe, c'est un ensemble. Quand je les prends, ils ont été embauchés déjà. Donc on a trouvé à ce moment-là, quand ils ont été embauchés, qu'ils avaient la capacité de faire ce travail. Et au fur et à mesure que la vie avance, eh ben, il y a des difficultés que l'on rencontre dans sa vie, de couple, avec les enfants, avec... Il y a plein de choses qui peuvent rentrer, le climat, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte là-dedans.
Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour votre témoignage. Aurélie Janté.
Moi, je voudrais effectivement réagir. Merci de. Bravo, effectivement, de cette attention aux émotions. Et ça me fait penser à cette définition de Claudine Haroche, hein, qui dit que le capitalisme, c'est la culture de l'inattention. Et effectivement, c'est quand même ce qui est dominant, donc c'est bien de pouvoir résister à ça, qui a effectivement une inattention aux émotions, alors que les émotions, elles sont extrêmement fortes au travail. Le travail nous mobilise et nous affecte. Et l'aide à domicile, j'aimerais bien rebondir aussi sur son témoignage rapidement, parce que c'était extrêmement intéressant. Elle disait à la fois le plaisir d'aider les autres et à la fois la gêne, la surcharge émotionnelle, la souffrance que ça occasionnait. Et je pense qu'effectivement, être attentif aux émotions, c'est aussi accorder aussi de la place. Alors, effectivement, le terme d'utilité n'était peut-être pas le mieux choisi, hein, mais c'est-à-dire que les émotions, elles disent quelque chose, elles nous renseignent. Et c'est en ça qu'elles sont utiles, mais pas dans une perspective utilitariste. C'est-à-dire que les émotions, elles pointent ce qui compte dans une situation. C'est-à-dire que si je suis gênée ou si j'ai du plaisir, c'est qu'il y a quelque chose là qui compte, par exemple, rendre service, etc. Ou alors, s'il y a une gêne, eh ben, si je suis attentive, je vais pouvoir peut-être déceler dans la réunion de travail quelque chose qui cloche, en fait, un problème, et du coup, voilà, réagir et agir en fonction de ça.
Vincent de Gaulé-Jacques.
Le capitalisme est inattentif aux attentions, mais
aux émotions.
Au moment de la révolution numérique, les ordinateurs sont totalement imperméables aux émotions. Donc ça renforce et exacerbe complètement cette question. Et la deuxième remarque, c'est, il dit, sur le collectif, l'importance des collectifs de travail. Et donc, entre l'individu et l'organisation, aujourd'hui, on a vu disparaître les collectifs qui permettent justement ce partage émotionnel, subjectif, etc., entre collègues, dans un même service, etc., on parle de soi, etc., et ça fait du bien pour le travail.
Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir appelé. Il est temps de retrouver une boule d'émotion nommée Éric Libiot et ses choses presque vues.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Et je vous le confirme, pour le bien de tous, il n'est toujours pas devenu psychothérapeute.
Hein. Ce serait quand même triste pour l'univers de la médecine. Première chronique de la saison, Ali, je vais donc rentrer directement dans le vif du sujet, si ça ne vous dérange pas. Après tout, nous sommes le 31 août. C'est le jour de la noix, et en parlant de noix, justement, c'est l'anniversaire d'Éric Zemmour, donc on va pas faire la journée là-dessus. Alors, comme vous l'écrivez, Aurélie Janté, il ne faut pas que l'émotion prenne le pas sur la raison, ni le contraire d'ailleurs, mais faire en sorte que l'une se mêle à l'autre pour avancer. Vous écrivez également que sans émotion esthétique, il n'y a pas de véritable pensée intellectuelle. Eh bien, désolé de vous le dire, mais je suis totalement d'accord avec vous. Raison et émotion, c'est la médaille et son revers, le yin et le yang, ce qui est là et ce qui est de l'autre côté du miroir, copains comme les deux doigts de la main, même si on ne sait plus si c'est la main gauche ou la main droite qui tient l'orange. Vous l'aurez compris, Ali, je fais ici allusion à l'anecdote qui poussa Lewis Carroll à écrire « De l'autre côté du miroir » et ce que Alice y trouva, sorte de suite de Alice au pays des merveilles, et qui me procure toujours la même émotion esthétique. Et oui, un beau jour, peut-être même un 31 août, on ne sait pas, Lewis Carroll proposa à une petite Alice de se placer devant un miroir en tenant une orange dans la main droite et lui demanda pourquoi dans le miroir elle la tient dans la main gauche. Et Alice répondit « À supposer que je sois de l'autre côté du miroir, est-ce que l'orange ne serait pas toujours dans ma main droite ?» Réponse que Lewis Carroll trouva si pertinente qu'elle lui donna envie de raconter ce voyage dans le monde à l'envers. Et pourquoi parler de ce livre, Ali ? Parce qu'on fête cette année le 150e anniversaire de la parution de ce livre et que toute occasion est bonne à prendre pour parler de Lewis Carroll. Mais je vous connais, Ali, vous allez me dire que cette raison n'est peut-être pas suffisante dans une émission où on parle des émotions au travail. Eh bien, je vous répondrai que le plus court chemin n'est pas forcément celui qu'on croit. Dans le livre de Lewis Carroll, par exemple, Alice mange un gâteau sec pour se désaltérer et doit s'éloigner du jardin pour s'en rapprocher. Hein, vous voyez un peu le truc. Alors Alice ne s'en offusque pas, elle opte pour la logique dans l'absurde, car il ne faut pas forcément donner du sens à la vie. Sens giratoire, sens unique, sens interdit, on ne sait plus. Et là, c'est plutôt le code de la déroute. Lewis Carroll, Alice et moi, nous choisissons le non-sens de la vie qui permet de regarder le monde d'un autre œil et d'agiter fortement le cocotier et la raison afin de les mouvoir. Les mouvoir en deux mots, hein, du verbe mouvoir. Qui d'ailleurs appelle un arrêt dans son dictionnaire historique de la langue française, il faut toujours citer un arrêt en début de saison, cher Ali, un arrêt donc rappelle que le mot émotion est lié à mouvoir, au mouvement, mais également au XVIIe siècle, à la sédition et à la révolte. À l'époque, la raison était le droit chemin, l'émotion c'était aller contre et pousser au soulèvement. Alors on peut se faire vacciner contre tout, hein, même contre Éric Zemmour, mais pas contre la révolte, mais attention, pas n'importe quelle révolte, il faut revendiquer celle d'Albert Camus, qui écrivait aussi sur l'absurde de la vie, mais en beaucoup moins drôle que Lewis Carroll quand même. Dans L'homme révolté, Camus pose d'abord la question, la révolte n'est-elle pas devenue l'alibi des nouveaux tyrans? Et il continue, la révolte n'est nullement une revendication de liberté totale, au contraire, la révolte fait le procès de la liberté totale. Loin de revendiquer une indépendance générale, la révolté veut qu'il soit reconnu que la liberté a ses limites partout où se trouve un être humain. Le révolté n'humilie personne. Alors vous, je ne sais pas, Ali, mais moi, l'intelligence au travail d'Albert Camus me procure toujours beaucoup d'émotions.
La chronique d'Éric Libiot a podcasté hein, sur l'appli France Inter et dans un instant, on s'intéresse à la place des émotions dans le télétravail. Et on écoute Joy Crooks. Interprété Fit Don't Find Me Now.
10 jours de télétravail, j'ai pris 10 ans. Oui, j'ai pris 10 ans. Regarde-moi cette coupe, Christine.
Grand bien vous fasse.
On dirait que je m'habille chez Damar. Je me douche plus, je me maquille plus. Je suis même pas un animal social, je suis un animal tout court.
Sur France Inter.
11h-10, quelle place pour les émotions au travail? C'est notre thème ce matin. Beaucoup de questions sur les émotions liées au télétravail, hein, qui s'est évidemment développé depuis la pandémie de Covid-19. Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, on a l'impression quand même que ces émotions ont été complètement étouffées. Je prends un exemple très concret, les fameuses visioconférences. Nous arrivons tous en même temps, à la même seconde, devant l'écran. Il n'y a pas de sas avant, il n'y a pas de sas après, on ne s'est pas vu avant, on ne débriefe pas après, on n'est pas de petits échanges, de petits commentaires. Je pense tout simplement, par exemple, au manager qui mène cette visio et qui souhaiterait avoir un mot avec quelqu'un à l'issue de la réunion, quel qu'en soit le sujet. Avant, petit aparté discret, clin d'œil, on se retrouvait très bien. Là, devant tout le monde, Jean-Claude, vous pouvez rester en ligne juste après. Que se disent les autres en raccrochant ? Mon Dieu, il est viré. Et là, tout un tas d'émotions nous submergent, mais nous sommes seuls face à notre écran et on ne les partage plus.
Aurélie Janté, sociologue et auteure des émotions au travail.
Oui, alors effectivement, vous pointez quelque chose de très important, c'est l'absence du corps et de la coprésence dans des mêmes lieux. Et donc, effectivement, tout ce que nos corps disent, en fait, et toutes les... la subtilité des relations et des interactions passe par tout un tas de signaux a passé en fait au départ la découverte de tous ces moyens de se réunir à distance. En fait, on s'aperçoit que ça manque terriblement et que du coup, ça peut donner lieu à des interactions très heurtées, très très brutales.
Et vous écrivez que la porosité des temps et des espaces professionnels et domestiques exige un travail émotionnel supplémentaire.
Alors, ben oui, c'est effectivement, il y a pour se passer de l'un à l'autre, en fait. Hein. Donc, il y a un aspect pratique aussi dans mais passer de l'un à l'autre à la seconde et scinder en fait des espaces et des temps, en fait, hein, qui ne le sont plus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de retour en arrière. C'est-à-dire que avant le travail et le hors travail étaient mêlés. C'est-à-dire que c'était les mêmes espaces, les mêmes temps. Aujourd'hui, on a scindé les deux et c'est vrai que ça nous aide à nous concentrer. Donc après, il faut retrouver des façons de se rendre disponible et concentré au travail, y compris quand on travaille de chez soi. Donc c'est une problématique avec aussi des inégalités sociales par rapport à ça.
Qu'est-ce que vous conseillez, docteur Patrick Légeron, psychiatre ?
D'abord, ce qu'on pourrait conseiller, c'est d'écouter quand même toutes les recherches qui sont fournies depuis fort longtemps. Vous savez, à la fin 2019, donc avant l'apparition de la pandémie et du télétravail généralisé, l'Agence européenne de sécurité et de santé au travail soulignait les risques psychosociaux que représentait la digitalisation accrue du travail. Et évidemment, le télétravail en est sans doute la manifestation la plus forte. Et ce que les entreprises n'ont pas compris, c'est que tous les bouleversements qui sont parfois nécessaires pour s'adapter à des environnements changeants, toutes ces modifications d'organisation nécessitent sans cesse de se poser la question de l'impact que cela a sur l'être humain. C'est-à-dire que quand on fait des réorganisations, on regarde l'impact sur la productivité, l'impact sur les ressources humaines, est-ce qu'il faut embaucher, licencier, mais on regarde jamais l'impact sur l'individu, c'est-à-dire l'impact émotionnel. Et donc ces études d'impact préalables à toutes les réorganisations. Et ce qu'on peut reprocher au télétravail, c'est qu'on a une vision extrêmement productiviste, ce qui est normal. Je pense qu'il ne faut pas sans cesse opposer le bien-être des individus et la productivité d'une entreprise. De même qu'il ne faut pas opposer l'individu et le collectif. Tout ça doit être abordé simultanément. Mais je pense que lorsqu'on réorganise, on doit s'intéresser à l'impact et de mettre en place, comme pour tout risque pour la santé, de mettre en place des mesures de détection, des mesures de protection et des mesures d'accompagnement. Et là, malheureusement, le télétravail n'aboutit pas à cela.
Alors, au terme de cette émission, n'oublions pas que dans certains métiers, certaines émotions sont encouragées ou découragées de façon implicite ou explicite. Par exemple, Aurélie Janté, au cours de sa formation professionnelle, on peut apprendre à banaliser ou à nier certaines émotions. Je pense au dégoût chez les chirurgiens ou les dentistes, ou bien à rechercher certaines émotions dans d'autres secteurs professionnels, comme le plaisir. Tout ça est très variable.
Oui, oui.
Je vous cite.
Oui, oui, effectivement, on apprend si on prend les artistes, par exemple, à pas montrer qu'on est en train de souffrir quand on danse et qu'on sourit et qu'on donne au contraire l'impression d'être extrêmement bien et qu'en fait on souffre physiquement beaucoup. Donc on est tout le temps en train d'apprendre parmi les spécificités de son travail, en fait, à réaliser un travail émotionnel, donc qui est plus ou moins important et qui est de nature très différente selon les métiers et aussi plus ou moins reconnu avec des marges d'autonomie là-dedans qui sont très différentes d'un travail à un autre. On parlait des aides à domicile tout à l'heure et on voit bien que ce travail émotionnel chez elles n'est pas du tout reconnu alors qu'il l'est chez un psychothérapeute ou un comédien par exemple.
Vincent de Gaulle-Jacques, sociologue.
Oui, les émotions expriment bien les contradictions qui sont à la fois au cœur du fonctionnement psychique et au cœur de la vie sociale. On ne peut pas dissocier la honte de la fierté, le plaisir de la souffrance, la haine et l'amour, les sentiments, tout ça se mêle et se démêle. Et donc ce dont on a besoin, Winnicott le disait bien, c'est d'espace transitionnel entre l'intériorité et l'extériorité. Il travaillait beaucoup sur cette nécessité de pouvoir jouer, par exemple.
Donald Winnicott. Tiens, au terme de cette émission, vous avez écrit un très beau livre sur la honte, à les sources de la honte, Vincent de Gaulle-Jacques. Comment exprimer sa honte au travail? Honte, par exemple, quand on s'ennuie profondément, qu'on souffre de ce qu'on appelle le bore-out, ou quand on pratique un métier socialement peu valorisé alors qu'il est essentiel. Comment faire avec cette honte qui peut nous empêcher de nous réaliser, d'être heureux au travail?
Déjà, avouer sa honte, d'une certaine façon, c'est déjà être un peu moins honteux, puisque le mécanisme de défense principal par rapport à la honte, c'est justement de ne pas de la cacher et de l'enfouir en soi jusqu'à mourir de honte, tellement on l'enfouit en soi, parce que justement, on se défend par le déni, par le secret, par l'impossibilité d'en parler. Donc il est très important d'ouvrir des espaces qui permettent d'exprimer effectivement ces émotions. Mais effectivement, là où il y a du pouvoir, là où il y a de l'évaluation, là où il y a de l'invalidation ou la dévalorisation d'autrui dans les systèmes d'évaluation de notes ou d'évaluation des performances dans les entreprises où les gens se sentent invalidés, ça ne favorise pas l'expression du sentiment intériorisé qu'on a de pas être à la hauteur des exigences qu'on vous demande.
Un outil important, peut-être pour exprimer ses émotions au travail, peut-être à utiliser avec parcimonie, selon les secteurs professionnels, c'est peut-être l'humour.
L'humour, et j'évoquais mon prochain livre sur mettre sa vie en jeu, le théâtre. Le théâtre est un formidable espace pour pouvoir justement exprimer toutes ces contradictions et en même temps les exprimer comme un jeu, c'est-à-dire c'est moins grave, apparemment.
Merci à tous, ça vous a été passionnant, j'aurais bien fait une heure de plus avec vous. Merci Aurélie Janté, on peut lire avec profit les émotions au travail. Merci Vincent de Gaulle-Jacques, on retrouve la plupart de vos livres chez Point Seuil. Et merci docteur Patrick Légeron, votre livre, votre best-seller, Le stress au travail, est publié en poche chez Odile Jacob. Toute la bibliographie est disponible sur l'appli et le site de France Inter. Comment être mieux attentif et concentré au travail, à l'école, dans sa vie quotidienne? Vaste programme, nos experts vous aideront demain. Vous pouvez d'ores et déjà laissé une note vocale sur l'appli France Inter.